Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Il est souvent décrit comme un peintre difficile et moins populaire que ses contemporains. Pourtant, Nicolas Poussin est aux yeux de Pierre Rosenberg l'un des plus grands peintres français du XVIIe siècle. Pour en saisir toute sa portée, l'historien de l'art et collectionneur a rassemblé tout ce que l'on sait aujourd'hui de son œuvre dans un catalogue raisonné. C'est un format exigeant, un peu délaissé aujourd'hui, qui recense et réunit tout ce que l'on sait sur les peintures de Nicolas Poussin. 4 volumes, près de 300 œuvres, plus de 1700 pages, c'est un travail monumental que vous avez mené, Pierre Rosenberg de l'Académie française. Bonjour à vous.
Bonjour.
Travail que vous avez réalisé avec votre collaboratrice Christelle Dupuis, que je cite. C'est un ouvrage qui éclaire une œuvre construite avant tout par la pensée, et on y reviendra. Mais d'abord, ce qu'il faut dire sur Nicolas Poussin, c'est qu'il occupe une place un peu à part dans le paysage de la peinture au XVIIe siècle. Vous dites de lui qu'il n'avait ni la violence d'un Caravage, ni la virtuosité d'un Rubens ou l'humanité d'un Rembrandt. Et pourtant, à vos yeux, c'est le plus grand peintre français du XVIIe. Quelle était sa touche personnelle ?
C'est le plus grand peintre français tout court.
Tout court.
Qui d'autre ? Cézanne ? Qui d'autre ? David ? Ingres ? Je ne sais pas. Quand on réfléchit, d'abord, tous les peintres que je viens de citer étaient des admirateurs inconditionnels de Poussin. Inconditionnels, tous les trois. Mais Matisse, enfin, c'est le plus grand peintre français. Et quand je pose la question « qui d'autre ?», je n'ai pas de réponse. Donc, c'est le plus grand peintre français.
Mais alors, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'il a eu une idée très haute de la peinture. Pour lui, la peinture était capable, mieux que la littérature, de dire des choses que les mots ne peuvent pas dire. C'est-à-dire que son idée à lui sur la peinture, c'est bien sûr d'être un magnifique coloriste, de construire ses compositions avec une grande intelligence, tout ça bien sûr, c'est évident. Mais il y a quelque chose de plus, c'est Poussin. Comment peindre nos grands sentiments ? Comment peindre la providence ? Comment peindre le destin ? Comment peindre l'amour ? Comment peindre la mort ? C'est ça qui l'intéresse. Comment le faire mieux que les écrivains ? Et évidemment, à cet égard, c'est une ambition immense que peu de peintres ont eue et qui fait que d'un côté, il n'est pas populaire, vous avez raison de le dire, il est beaucoup moins populaire que les grands du XVIIe siècle que vous avez cités, Caravage, Rembrandt, Rubens, Velázquez, il est évidemment moins populaire qu'eux, mais son ambition est peut-être plus grande encore que celle des peintres que je viens de citer. C'est une ambition énorme et en effet, il arrive à en raconter des histoires et essayer de nous mettre dans une condition telle que celle que l'on a quand on lit un grand roman. Et il y arrive en plus avec quelque chose que les écrivains n'arrivent pas toujours à faire, c'est-à-dire qu'ils jouent sur l'ambiguïté. Il y a un tableau au musée de Détroit qui représente une déesse, c'est Diane et Endymion. Le berger Endymion est à ses pieds, Vénus est là, assez dénudée, très belle, et il est à genoux devant elle, il y a un rideau, et on peut se poser la question de savoir si la scène et après la nuit qu'ils ont passée ensemble, ou si au contraire, il la supplie de la passer avec lui. Il joue sur cette ambiguïté, et on peut soi-même interpréter le tableau comme on veut, et à partir de ce tableau, se faire l'histoire que l'on veut. Donc l'ambition est immense, et en fait, c'est une ambition, en effet, qui ne l'a pas rendu populaire, mais qui le fait très populaire parmi les historiens d'art, et il est surtout adoré des peintres. Le copie, Jeff Koons, pour ne citer que lui, le collectionne. Tous les grands Allemands font des pastiches de Poussin. Donc c'est un peintre qui est adoré par les peintres parce que tous les peintres essaient de faire ce qu'il a réussi.
Mais moins populaire chez le grand public. Est-ce que c'est parce que ses œuvres étaient moins accessibles ?
Non, elles sont moins accessibles parce qu'il faut avoir une certaine connaissance de la mythologie, de la Bible. Il faut avoir une certaine connaissance de la grande littérature de l'époque, évidemment. Mais aussi, je crois, parce qu'on ne fait pas l'effort nécessaire. Les tableaux, il faut les regarder longtemps, Poussin tout particulièrement. Il faut s'imprégner de l'histoire qu'ils veulent nous raconter. Tout ça prend du temps. Et les gens ne prennent plus le temps devant les tableaux. Ils passent trop vite devant les tableaux. On croit que la peinture actuelle ne demande pas d'effort. C'est faux, elle demande le même effort. Guernica est un tableau d'histoire qui demande le même effort que la mort de Germain Cus de Poussin. Mais cet effort, les gens ne le font pas. Cependant, il y a des gens qui tombent dans la marmite. Mm-hmm. Et alors, ils tombent dans la marmite Poussin, ils n'en sortent pas. Ils
comme vous, par exemple, vous êtes tombé dans la marmite.
Moi, je suis tombé depuis 1961, 1960. C'est vous dire que ça fait... Et puis, c'est mon métier de tomber dans la marmite des peintres. Non, mais je parle de gens de tout bord, de tout horizon.
Mais ce qui distingue Nicolas Poussin, c'est que vous dites dans ce catalogue qu'il abordait tous ces sujets de peinture avec un intellect très puissant. Alors, je voulais que vous reveniez sur ce mot-là, intellect. Qu'est-ce que vous entendez par ça ?
C'est-à-dire que la peinture, c'est un plaisir des yeux. Poussin lui-même a utilisé un mot qu'on emploie souvent, la délectation. Et c'est vrai que pour lui, la notion de délectation, de beauté est essentielle. Mais lui, pour lui, la peinture, c'est autre chose. Elle veut raconter des histoires, elle veut nous faire réfléchir, elle veut que nous posions les questions qui nous concernent, notre destin, la providence. Alors, il y a un autre tableau, si vous voulez, je peux en parler. C'est Eliezer et Rebecca. Alors là, l'histoire est très charmante. Abraham a un fils, Isaac, qu'il veut marier, mais avec une fille qui soit de son pays, c'est-à-dire de son pays, la Chaldée. Alors il envoie son serviteur, le fidèle Eliezer, à la recherche de celle qui sera la femme d'Isaac, c'est-à-dire nous sommes tous les descendants de cette histoire de la Bible. Le christianisme, toutes les religions descendent de là. Alors le pauvre Eliezer, il se dit, comment est-ce que je vais la trouver ? C'est pas facile. Alors il part avec ses chameaux dans le désert, et puis il se demande à Dieu un peu comment est-ce qu'il faut que je fasse pour la retrouver. Alors lui, dit, la première qui donnera à boire à tes chameaux, c'est elle qui sera la femme. Alors il avance, et puis il y en a une, en effet, il y a tout autour du puits, il y a toutes sortes de femmes qui sont là, et subitement, la pauvre Rebecca est investie de cette... Alors elle est toute surprise, elle est en effet très flattée, mais elle, c'est le destin, qui lui tombe dessus, comme ça, un peu par hasard. C'est magnifique comme histoire. Alors il y a plein de jolies dames là autour du puits, et il y en a, elles ont toutes des cruches, il y a beaucoup de cruches, Picasso a beaucoup aimé le tableau, et puis il y en a une d'ailleurs que j'aime beaucoup moi personnellement, qui elle a une cruche sur la tête naturellement, et qui nous regarde. Et elle est là parce qu'elle est l'intermédiaire entre toutes ses compagnes autour du puits, les jalouses, les envieuses, celles surprises, il y a toute chaque expression, chaque visage a une expression différente. Et puis elle qui est là pour nous dire « je suis là, mais c'est vous aussi qui regardez le tableau ». Vous voyez, donc c'est des histoires merveilleuses et qui, évidemment, sont là pour non seulement nous émouvoir, non seulement pour qu'on admire les couleurs, etc., etc., mais aussi pour qu'on s'interroge « qu'est-ce que c'est que la providence ?»
Là, vous avez parlé d'un tableau qui s'inspire donc d'un texte biblique.
Oui.
Nicolas Poussin, il étudiait les textes anciens. Il y avait très peu d'improvisation dans ses peintures.
C'était un grand lecteur. Il lisait beaucoup et notamment, il cite dans la correspondance que j'étudie en ce moment, il cite Montaigne. C'est quand même intéressant qu'un peintre lise Montaigne au XVIIe siècle à Rome. Mmh. C'est quand même extraordinaire.
Surtout
que Montaigne, évidemment, s'interroge sur les mêmes questions Poussin. Justement, les questions un peu de notre destin, quelle est notre place dans la vie, comment est-ce qu'on peut mieux se débrouiller dans cette vie, etc., etc. Donc, c'est un peintre qui a mis la barre très haut.
Un peintre, est-ce qu'on peut le qualifier de peintre intellectuel ?
Alors, il y a ceux pour qui Poussin est le peintre philosophe. Il y avait un grand Anglais, Sir Anthony Blunt, qui a défendu l'idée que, pour lui, c'était le peintre philosophe. Il y avait un autre Anglais à l'époque, lui aussi Sir Denis Mahon, qui, lui, privilégiait le peintre-peintre, pour qui la peinture était prioritaire, et qui privilégiait aussi l'autre idée que, chez Poussin, la pensée évolue. C'est-à-dire que les tableaux, selon la date à laquelle ils ont été peints, veulent dire autre chose. Et c'est parfaitement vrai, il y a une évolution de sa pensée, et c'est vrai qu'un tableau, on peut le dater en fonction des idées de Poussin. Et par exemple, à un certain moment de sa vie, Poussin peint non pas la campagne, mais la nature. Et l'homme dans la nature, qui occupe le premier plan, les histoires se tournent autour de l'homme, c'est la tempête avec les hommes renversés, c'est l'homme qui est le motif principal. En évoluant dans sa vie, c'est la nature qui prend la première place. Mmh. Nous sommes que de passage, les tempêtes et serins sont plus importantes que nous. Et il y a cette idée extraordinaire, en effet, que les saisons, le passage de l'homme sur la terre n'est que provisoire. Et comme vous le savez, un de ses derniers tableaux, presque son dernier tableau, représente le déluge. C'est un des quatre tableaux, une des quatre saisons. L'été, l'automne, l'hiver, etc. Et le déluge, c'est la fin du monde. Mmh. La fin du monde. Vous vous rendez compte aujourd'hui ?
Mais c'est tout l'intérêt de ce catalogue raisonné, c'est de montrer l'évolution de ces centres d'intérêt.
Alors, et catalogue de ces... raisonné, je vous interromps. Qu'est-ce que c'est qu'un catalogue raisonné?
Oui, justement, je voulais vous demander qu'est-ce qu'on entend par raisonné, parce que je pense que les auditeurs ne connaissent pas.
C'est, oui, oui, c'est une expression que les Anglais ont inventée en français.
Vient de l'anglais.
Ça vient de l'anglais, malgré que les mots soient français. Catalogue raisonné, c'est le catalogue raisonné veut rassembler l'ensemble de la production d'un artiste et veut montrer ce qu'il a peint. Où sont les œuvres qu'il a peintes, où sont les œuvres qui ont disparu, ne pas confondre les copies avec les originaux, ne pas confondre les imitateurs, les pastiches avec les originaux. Ça consiste, si vous voulez, à faire que le squelette du peintre, les os collent. Mmh. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait subitement les os d'un autre qui viennent se brancher sur le cadavre, sur les squelettes. Voilà,
alors c'est comme un inventaire où vous authentifiez aussi les peintures.
Oui, bien sûr, c'est une sorte d'inventaire, c'est certain. Alors là, il y a quand même aussi un point à dire tout de suite, c'est que Blunt catalogue les tableaux par sujet. La Bible, les allégories, etc., etc. Mahon, au contraire, lui, il s'intéresse à la chronologie des tableaux. Il a classé les tableaux dans l'ordre dans lequel ils ont été peints. Il y a entre les différents livres de grandes variantes. Mmh. Moi, je ne suis qu'une étape. Il y aura peut-être dans quelques années quelqu'un qui fera un nouveau catalogue raisonné.
Mais ça, faire ce catalogue raisonné vous a pris du temps parce que déjà, en 1996, vous exprimiez déjà votre souhait de trouver le temps et l'énergie de le faire.
C'est-à-dire que je suis tombé, j'étais tout jeune conservateur, j'étais vraiment très jeune, et je faisais un catalogue à Rouen sur les tableaux français et italiens du musée de Rouen, quand le hasard a fait qu'on m'a confié une exposition à la suite de la grande exposition Poussin de 1960 qui avait lieu au Louvre. Alors j'ai fait une exposition en 61, et le hasard qui s'appelait Poussin et son temps, et le hasard a fait qu'elle a reçu un certain succès, et que subitement j'ai été lancé à cause d'un article dans la revue la plus importante en histoire de l'art qui s'appelle The Burlington Magazine, et voilà, alors j'ai été lancé. Et depuis 61, j'ai jamais cessé.
Vous êtes le grand spécialiste de Nicolas Poussin
aujourd'hui.
Au monde.
Aujourd'hui, oui. Et
alors, pour continuer sur le catalogue raisonné, vous dites dans la préface qu'aujourd'hui, on en fait de moins en moins, qu'il n'est pas tant à la mode. On fait plus des monographies aujourd'hui.
On fait plus de monographies, mais surtout, on fait plus d'interprétations. C'est-à-dire que l'œuvre de Poussin est si riche que toutes les tendances un peu de l'histoire de l'art la plus moderne, le féminisme, toutes ces tendances s'intéressent à Poussin et avec des surinterprétations qui, moi, ne m'intéressent pas du tout. On veut l'interpréter en clé de modernité. Alors, c'est vrai que c'est un peintre moderne, en un sens, mais je crois que la surinterprétation est un peu aussi l'ennemi des catalogues raisonnés. Mmh. Les catalogues raisonnés veulent, entre guillemets, la vérité. La surinterprétation, c'est une histoire de personne, et moi, je ne suis pas un surinterprétatif.
Mmh. Alors, dedans, il y a 293 tableaux qui sont répertoriés, catalogués. C'est presque exhaustif. Je crois que certains tableaux ont disparu, c'est ça?
Ah oui, le catalogue raisonné que j'ai fait inclut des tableaux qu'on connaît soit par des copies, l'original est soit par une gravure ancienne, soit par une mention. Si par exemple quelqu'un du vivant de Poussin dit « Ah, j'ai vu chez monsieur un tel un tableau de Poussin qui représente ce sujet » et que c'est crédible, il fait aussi partie du catalogue raisonné.
Vous l'avez compté. Donc on est à peu près à 300 peintures par Nicolas Poussin. C'est beaucoup ou pas beaucoup par rapport aux peintres contemporains de Nicolas Poussin ?
C'est honnête, si vous voulez. Bien sûr, Rubens a peint beaucoup plus. Mais il avait un atelier. Je ne sais pas le nombre de tableaux de Rembrandt, mais ça doit être comparable. Mm-hmm. Velázquez n'a pas peint plus. Donc, si vous voulez, c'est un chiffre assez honorable. Il peignait très lentement. Ce qui comptait pour lui, ce n'était pas simplement pas de peindre. Il peignait une figure par jour, dit-il. Mais c'était d'avoir trouvé l'idée. Mm-hmm. Donc, c'était avant de passer au pinceau, il réfléchissait. Puis, quand il avait une idée, il la dessinait sur le papier. Et puis après, si ça marchait, il faisait des petites figures en terre.
Oui.
Et il les plaçait dans une boîte.
Dans une petite boîte optique.
C'est ça. Et puis il les déplaçait jusqu'à ce qu'il soit content. Donc il peint plutôt vite, mais en même temps très lentement.
Il Il est aussi connu pour avoir peint ce qu'on appelle des poésies morales, comme son tableau le plus célèbre, qui est Les bergers d'Arcadie.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des poésies à portée morale ?
Alors, oui, c'est des leçons morales.
Mm-hmm.
Les bergers d'Arcadie, il y a un tombeau, et puis sur le tombeau, il y a marqué « Est in Arcadie ego », et même en Arcadie. Et qu'est-ce qu'il y a en Arcadie ? Parce que les bergers vivent dans un monde paradisiaque, dans la Grèce antique, la plus belle. Qu'est-ce qu'il y a en Arcadie ? La mort. Alors il contemple ça, il y a celui qui déchiffre, il n'a pas encore compris. Il y a une grande femme sur la droite, on se demande exactement ce qu'elle représente. Et puis il y a celui qui a compris que lui aussi il y passera, comme nous tous, moi avant vous. Et puis il y a surtout une chose qu'on a remarqué il y a assez peu de temps, il y a une ombre sur la tombe. Alors je n'ai pas dit qu'il y a une première version du tableau où sur la tombe il y a un crâne. Alors c'est plus clair. Alors là, le crâne est supprimé, c'est-à-dire que le tombeau, c'est pas un mort, c'est la mort.
C'est pour ça qu'il a supprimé le crâne.
C'est pour ça qu'il a supprimé le crâne. Mais il y a sur le tombeau une ombre. Et cette ombre, c'est une faux.
Alors, il y a les bergers d'Arcadie, c'est un sujet de poésie morale.
Mais oui, parce que c'est une manière pour nous de nous demander quand est-ce que cette faucheuse va nous tomber dessus. Elle peut, en sortant d'ici, sur les quais...
Surgir.
À n'importe quel
moment.
Surtout, comment est-ce qu'on va l'affronter ? Parce que comment on se prépare à ça ? Est-ce qu'on y pense tous les jours ? Est-ce qu'au contraire, on se dit, on n'y pense pas, on a trop à faire à gauche et à droite ? Voilà, est-ce qu'il faut y penser ? Est-ce qu'il faut réfléchir à cette mort et se poser la question, à tout âge, comment est-ce qu'on va affronter ce moment pénible ? Voilà, donc si vous voulez, là aussi, le tableau était archi-célèbre au 19e. J'espère que le Louvre le restaurera bientôt.
Il est toujours célèbre aujourd'hui. Est-ce que, du vivant de Nicolas Poussin, ce tableau a rencontré beaucoup de succès ?
On ne sait pas très bien, enfin, on sait à peu près pour qui il a été peint. Maintenant, et même c'est pas tout à fait sûr, le tableau a été un grand succès. Parce que si vous voulez, Poussin vivait à Rome, qui était la capitale des arts à l'époque. Tout se passait à Rome, et quand il est à Paris, Poussin est très très malheureux. Très très malheureux.
Oui.
Il trouve que Paris c'est la province, que les peintres sont nuls, que...
Alors qu'il venait même pas de Paris, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Nicolas Poussin est normand, il est monté à Paris avant de découvrir l'Italie et Rome, dont il est jamais revenu.
Vous savez, ce côté de Poussin est très simple. Tout le monde est allé à Rome au XVIIe siècle, tout le monde était à Paris au XIXe siècle. C'est le même phénomène. Paris, entre 1850, avant la Première Guerre mondiale, tous les artistes, même les moins français, si j'ose dire, qu'ils soient, vivaient à Paris. C'était le centre, tout le monde était là. Et à Rome, c'était pareil. Et surtout, il y avait un pape à l'époque, Urbain VIII, qui était francophile et qui aimait la France. Et ça jouait pour lui aussi, naturellement. Et cette cour du pape était très cultivée, très érudite, et c'est elle qui a adoré Poussin. Il y avait des cardinaux là autour du pape, qui est des Barberini et toutes sortes.
Parce que Poussin était le plus érudit des peintres ?
Oui, parce qu'il y avait, à mon avis, un dialogue entre lui et ses grands personnages sur des thèmes, justement. Est-ce que la peinture peut remplacer la poésie ? Comment la peinture peut être l'équivalente de la musique ? Ces questions-là intéressaient ces cardinaux, qui étaient très érudits. Ils n'étaient pas tous des saints, naturellement, mais ça, c'est autre chose. Et voilà, donc il avait autour de lui des gens avec qui il pouvait discuter, dialoguer, parler. Et à Paris, ça ne s'est pas bien passé.
Mais lui qui lisait beaucoup, qui aimait avoir des conversations profondes avec tout un tas de gens, est-ce qu'on sait s'il a écrit sur la peinture ?
C'est une grande question. C'est une grande question. Il a écrit des lettres. Je suis en train de m'attaquer à la correspondance de Poussin, qui est une belle correspondance d'un homme cultivé, bien sûr. Il voulait écrire sur la peinture, mais les textes qu'on connaît sur lui sont presque toujours des textes qu'il a copiés sur d'autres.
Ah oui.
Il y a un texte très célèbre de musicologie de la fin du XVIe siècle, de certains Zarlino, et il a cru que ce texte sur la musique, qui était une sorte d'équivalence entre les sons et comment on sent les sons, il a cru qu'on pouvait le transcrire en peinture. Mais il n'a fait rien d'autre que recopier un peu sournoisement un texte dont il n'est pas l'auteur.
D'accord.
Je crois qu'il aurait voulu faire un vrai traité de la peinture, mais là, ça n'est qu'une hypothèse.
Alors, vous dressez dans ce catalogue les caractéristiques récurrentes qu'on peut retrouver sur les tableaux de Nicolas Poussin. Par exemple, la signature. On apprend qu'il signait très peu ces tableaux.
Ça, c'est banal pour le 17e.
Alors voilà, ce n'est pas une particularité personnelle, non. C'est tout à fait courante au 17e. Autre particularité, peinture à l'huile. Alors ça, j'imagine que c'est aussi courant au 17e.
C'est courant au 17e. Comme vous savez, quand il était au Louvre, je vois le Louvre de vos fenêtres, là. Je vois
juste
même
en face.
Le bureau que j'y ai eu autrefois, il y a très longtemps. On lui a commandé de décorer la Grande Galerie. Et puis ça a été un échec, parce qu'en fait, c'était pas son affaire de peindre des grands décors.
Des grandes alors, fresques.
Et oui, comme à Rome, Pierre de Cortone, le palais Barberini. Et il a cru qu'il aurait pu, sur ce champ-là aussi, rivaliser avec les peintres contemporains. Et on s'est aperçu que ce talent-là, il l'avait pas. C'est un peintre de chevalet, de tableaux d'une certaine dimension. Et ce qui faisait la gloire des grands décors de Rome, c'était au-dessus de ses moyens. Ces grands décors, il faut quand même comprendre pourquoi ils ont été si admirés au XVIIe siècle. Je parle des grands décors de Rome, de Florence, de partout. C'est que peindre un plafond, ça suppose voir d'en bas quelque chose que quand vous le peignez, vous ne voyez pas. Parce que si vous voulez, il faut s'imaginer qu'il y a quelqu'un 10, 15 mètres en dessous de vous qui voit quelque chose que vous faites. C'est une prouesse technique extraordinaire.
Aptitude que Nicolas Poussin n'avait pas.
Exactement.
Donc lui, il préférait la peinture à l'huile. Les avantages de la peinture à l'huile, c'est qu'il y a un séchage lent, donc ça produit des teintes un peu plus intenses. Voilà.
Peinture à l'huile, c'est ce que faisait tout le monde à l'époque, donc ce n'est pas très original. Ce qui est important pour lui, c'est de produire des couleurs.
Le travail des couleurs très intense.
Très intense, plus ou moins cher. Le marché était à Rome, notamment par exemple le bleu, le lapis lazuli, qui coûtait une fortune. C'était des pierres qui venaient d'Orient, qu'il fallait broyer. Et le lapis lazuli était très cher.
Ça dépendait des commanditaires. Si le commanditaire était très très riche,
voilà.
Nicolas Poussin pouvait se permettre d'utiliser des pigments très chers.
C'est tout à fait vrai.
On sait peu de choses sur Nicolas Poussin. Il s'est assez peu livré sur lui-même. Et pourtant, vous dites qu'il a une personnalité assez attachante. Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça ?
C'est un homme un peu secret. Et c'est un homme un peu replié sur lui-même et qui n'a pas du tout voulu, au contraire d'autres peintres du XVIIe siècle, de tout le simple, qu'on parle de sa vie personnelle. C'est son œuvre qui comptait pour lui. Il voulait survivre, il pensait qu'il survivrait par son œuvre. Et sa vie, il ne l'a pas vraiment cachée, mais il n'en a pas fait étape. Il n'y a pas des grands scandales. Il y a des peintres qui jouaient, qui étaient ruinés parce qu'ils jouaient. Il y en avait d'autres qui étaient un peu trop portés sur les dames, d'autres sur les alcools. Alors, Poussin, à mon avis, buvait peu. Il avait une syphilis qu'il avait attrapée assez tôt et dont il a souffert toute sa vie.
Oui, il a eu des problèmes de santé.
Il a des grands problèmes de santé à la fin de sa vie. Il tremble des mains. C'était un malade un peu imaginaire parce que c'était parfois un moyen de dire « Je suis malade, votre tableau, j'ai pas pu le terminer. »
Ça l'arrangeait bien.
Ça l'arrangeait bien. En d'autres cas, au contraire, c'était vrai. Et c'est un mariage de raison. Et on s'est beaucoup demandé pourquoi il n'y avait pas d'enfants. Parce qu'à l'époque, il y avait des enfants, ils n'avaient pas d'enfants, à mon avis, parce que cette syphilis, etc.
Oui, donc il n'a pas de frasque.
Ça. Malheureusement, on n'a rien à se mettre sous la dent. C'est dommage.
Mais c'est peut-être justement sa modération et son mystère qui vous plaisent autant.
Oh non, pas forcément. Moi, les petites histoires, c'est toujours amusant.
Pierre Rosenberg, je voulais parler d'un autre sujet. Vous êtes donc spécialiste de l'histoire de l'art du XVIIe siècle. Il y a un autre projet monumental qui vous occupe aussi depuis quelques années. C'est l'ouverture d'un musée prochainement à Saint-Cloud. C'est le musée du Grand Siècle, donc consacré au XVIIe siècle. Et je crois que les collections sont en grande partie dues à vos donations.
Oui, si vous voulez, j'avais pensé faire un musée Poussin aux Andelys, qui est la ville natale de Poussin.
Qui se trouve où à peu près en France ?
Normandie.
En Normandie.
Dans l'Eure, département de l'Eure. Et en plus, il y avait un bâtiment magnifique qui s'avérait libre et qui aurait été parfait pour faire un musée Poussin. Et à ce moment-là, il y avait un homme politique dont on parle maintenant beaucoup, qui est le Premier ministre, qui à un certain moment a dit « Non, le département n'a pas les forces financières pour faire ce musée ». Et à ce moment-là, il s'est produit le miracle de Vejean. Un miracle qui nous a fait très peur à un certain moment, puisque de Vejean a été parmi les premiers morts du Covid. Et alors à cette époque, le musée était déjà lancé. De Vejean avait débloqué 100 millions d'euros pour ce musée. C'est quand même une somme considérable. Les locaux avaient été trouvés. Ce sont des casernes qui sont à Saint-Cloud et qu'on voit très facilement quand on va à Versailles. Il y a le tunnel. Juste avant le tunnel, à gauche, il y a des grands bâtiments. C'est là que sera le musée du Grand Siècle. Musée du Grand Siècle, c'est-à-dire un musée consacré au XVIIe siècle, qui est confié à Alexandre Gady, un universitaire, qui fait un travail admirable. Et c'est un musée de société, c'est-à-dire qu'il expliquera un petit peu, il y aura des tableaux, je me rassure, mais qui expliquera un peu comment on vivait au XVIIe siècle.
Oui, il n'y aura pas que des peintures.
Ah, il n'y aura pas que des peintures, c'est des... Qu'est-ce que voulait dire Dieu, la révocation de l'édit de Nantes? Qu'est-ce que voulait dire l'esclavage? Comment vivait le peuple, les pauvres? Comment vivaient les riches?
C'est un projet total.
C'est un projet total à un moment où l'école ne fait plus tellement son boulot. Elle n'enseigne pas l'histoire de l'art, ce qui est un de mes grandes tristesses personnelles, un de mes grands échecs professionnels. Mais au moins, ce musée devrait faire comprendre comment nos ancêtres vivaient, dans quelles conditions, les heures des repas, qu'est-ce qu'on mangeait. Que voulait dire la fin? Non, c'est un musée très ambitieux sur ce plan, mais qui, à mon avis, devrait éveiller, j'allais dire, à la culture, les jeunes, et devrait permettre de s'interroger, en effet, sur comment vivaient nos ancêtres.
L'ouverture est prévue pour 2027
Le printemps 2028.
Donc, 2028.
Oui, donc je vis encore chez moi, mais dans quelques mois, ma maison sera vidée.
Oui, parce que le musée sera composé en partie
de ma collection.
De votre collection.
De tableaux, de dessins. Et puis, il y aura un centre d'études, et là, je suis très content.
Un centre d'études qui s'appelle le centre d'études Nicolas Poussin.
Bravo. Ça, j'y ai tenu. Il y aura un colloque chaque année consacré, pas simplement à Poussin, mais à la peinture du XVIIe siècle en France. Non, les dessins, etc.
Et vous donnez combien de vos tableaux pour ce musée ?
Je donne tous mes tableaux, tous mes dessins, tout.
Absolument tout ?
Tous mes livres, 50. J'ai une bibliothèque de 50 000 livres.
Et vous sauriez dire combien de tableaux, dessins ?
Ah oui, tout ça. Il y a deux personnes qui font le catalogue en ce moment. Une des tableaux, l'autre des dessins, qui sont naturellement des conservateurs. Je crois, l'une est même, je crois, major de sa promotion de conservateur.
Oui, donc c'est
un gros travail.
C'est un travail énorme. Donc à partir de 2028, vous n'aurez plus de tableaux chez vous.
Voilà, exactement.
Ça va vous faire bizarre.
Ça va me faire bizarre, vous avez raison.
Alors, les auditeurs peuvent se procurer ce catalogue raisonné. Évidemment, il est disponible aux éditions Flammarion. On peut le trouver à la librairie de l'Institut, notamment. Alors, il a un certain coût, mais pour les personnes qui veulent découvrir des œuvres de Nicolas Poussin, elles peuvent aller les observer donc, dans le futur musée du Grand Siècle qui ouvrira en 2028. Sinon, on peut toujours aller au Louvre, au musée du Prado... La National Gallery, ce sont les endroits, les principaux musées qui ont Nicolas Poussin.
Il y a un exemplaire de mon livre à l'Institut, bien sûr.
Et bien sûr, on peut aller le feuilleter à la bibliothèque de l'Institut. Merci beaucoup.
Merci.
Les podcasts de l'Institut de France.